Europe 1, il est 7h.
Au milieu du pont, j'ai vu un gros camion qui arrivait et je me suis dit que ça n'allait pas passer, donc j'ai accéléré. Je voulais être sortie du pont avant qu'il y rentre. Ah ben, 10 secondes près, j'étais avec les autres.
Un témoignage exclusif ce matin sur Europe 1, celui d'une automobiliste passée sur le pont de Mirepoix-sur-Tarn peu avant son effondrement.
La piste du non-respect de la limitation de poids du camion est privilégiée. On sera en ligne avec le président du conseil départemental de Haute-Garonne.
Un face-à-face au congrès des maires de France ce mardi, Emmanuel Macron, François Baroin, désormais représentant des élus locaux et potentiel présidentiable, même s'il continue d'entretenir le suspense.
Je ne suis pas sûr que je dirais à la fin, une fois que j'aurai terminé de compter mes points de retraite, que j'aurais raté ma vie si je ne suis pas président de la République.
Visite dans ce journal aussi d'un quartier de prise en charge des détenus radicalisés. La sécurité, mais aussi la curiosité pour favoriser l'ouverture, notamment grâce aux livres.
L'idée n'est pas du tout d'orienter les personnes dans leurs croyances, mais plutôt que de les amener à s'ouvrir sur d'autres horizons et de s'autoriser à penser librement.
Enquête Europe 1 à suivre.
Dans ce journal aussi, l'inquiétude un déficit du système de retraite et Google qui se lance dans le jeu vidéo. 7h01, bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mathieu Béliard, Marion Kelly.
Elle est presque une rescapée et elle témoigne ce matin en exclusivité sur Europe 1.
Liliane a eu le réflexe d'accélérer hier matin en voyant le camion arriver aux abords du pont de Mirepoix-sur-Tarn. Son récit au micro Europe 1 de Benjamin Péter.
Quand je suis arrivée au milieu du pont, j'ai vu un gros camion qui arrivait et je me suis dit que ça n'allait pas passer, donc j'ai accéléré. Je voulais être sortie du pont avant qu'il y rentre. Mais je ne sais pas, je l'ai trouvé trop imposant, ça m'a inquiétée.
Et il était comment ce camion ?
Pour moi, il était orange. Un gros camion qui, à mon avis, transportait un engin. J'étais juste à la sortie du pont et lui, il y est rentré. C'est ce qui fait que j'ai rien vu après, quoi. Oui. Il y a des camions, quand il y a des travaux, quand il y a des maisons qui se construisent, on en voit passer des gros camions. Mmh. Mais je ne sais pas pourquoi, celui-là m'a apparu... En fait, il m'avait peur. C'est peut-être ce qui m'a un peu sauvé. Et après, j'ai appris que c'est ce camion qui était tombé, quoi.
Vous dites que vous l'avez échappé d'elle ?
Je me dis que j'ai une chance inouïe, que j'ai une toile au-dessus de ma tête, certainement. Et en même temps, je me dis que malheureusement, les autres n'ont eu pas ma chance, quoi. Ah ben, 10 secondes de près, si je m'étais arrêtée ou si j'avais ralenti, j'étais avec les autres, quoi.
La chance, l'intuition et le sentiment d'avoir échappé à un drame, Liliane, qui répondait en exclusivité à Benjamin Péter pour Europe 1.
L'enquête devra maintenant déterminer les causes du drame qui a fait 2 morts. Selon les premiers éléments, le camion ne respectait pas la limite des 19 tonnes autorisées sur le pont, qui avait été contrôlé et qui n'était pas identifié comme posant de problèmes particuliers.
Bonjour Georges Méric.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président du conseil départemental de Haute-Garonne. On a beaucoup parlé depuis hier de ces limitations de poids qui ne sont pas respectées. Est-ce que ce n'est pas là, justement, une piste de travail, renforcer la réglementation ou les sanctions, par exemple ?
Moi, j'attends les résultats de l'enquête judiciaire de M. le procureur. Il est évident que ce camion paraît très gros, avec un porte-char et un engin dessus. Bon, nous, de notre côté, le surveillance du pont est tout à fait normale. L'organisme d'État CEREMA en 2017 a fait un contrôle scrupuleux, comme il fait d'habitude. Il n'y avait pas de problème de structure et les services du département font un contrôle annuel. En 2018, elle a été contrôlée sans problème. Moi, je fais entière confiance aux agents du conseil départemental dans leur sérieux. Donc ce pont ne posait pas de problème pour nous.
Alors dans votre département, il y a 1800 ponts au total, 4 millions d'euros annuels pour leur entretien. Est-ce que vous allez lancer une expertise globale dans votre département après ce drame ?
Oui, il y a 1841 ponts qui sont surveillés par nos services. Nous considérons qu'on fait le boulot et c'est un drame qui nous navre, un drame humain, qui bouleverse deux familles, qui bouleverse toute une commune. Ça, c'est clair et nous sommes avec eux psychologiquement. Mais notre travail, nous le considérons comme correct et à haut niveau nécessaire et nous allons poursuivre cela et nous attendons donc la procédure d'enquête judiciaire qui dira pourquoi le pont est tombé.
Voilà, l'attente des résultats de cette enquête. Donc merci Georges Méric, président du conseil départemental de Haute-Garonne, d'avoir été en direct ce matin avec nous sur Europe 1.
Et cette commune de Mirepoix-sur-Tarn, oui, l'émotion sur place, j'appelle Éric Auger, le maire de Mirepoix-sur-Tarn. Il sera mon invité à 7h40 sur Europe 1 ce matin.
Europe 1, 7h04.
Emmanuel Macron à la reconquête des élus locaux. Le président qui s'exprimera cet après-midi à 16h devant le congrès des maires de France.
Des maires emmenés par François Baroin, le président de leur association, présenté comme un candidat potentiel pour les Républicains en 2022. Mais l'heure n'est pas encore à l'affrontement. Pour Europe 1, Aurélie Herbemont.
Si François Baroin envisage de refaire de la politique nationale, il a besoin de ne pas être trop clivant. Cette ministre en est persuadée, le chef de file des maires n'ira pas au clash avec Emmanuel Macron cet après-midi. Un proche de François Baroin promet un discours républicain. Pas question de faire du Congrès une tribune pour 2022, d'autant que François Baroin entretient le mystère sur ses intentions, comme il y a 10 jours sur Europe 1.
Je n'ai pas que la politique dans le sang, j'adore ça, j'adore mon pays, j'adore le débat, j'adore échanger, j'adore faire. Mais j'adore aussi d'autres sujets. Et je ne suis pas sûr que je dirais à la fin, une fois que j'aurai terminé de compter mes points de retraite, que j'aurai raté ma vie si je ne suis pas président de la République.
Baroin, c'est Godot, s'amuse un ministre de droite. Vous passez la journée à l'attendre et il ne vient pas. Être candidat ou pas, c'est une décision personnelle que François Baroin prendra avant l'été. D'ici là, il sème des petits cailloux. Il a repris du service chez LR et dans le livre qu'il vient de publier, il raconte la France des territoires, manière d'installer un potentiel match avec Emmanuel Macron, souvent qualifié de président des villes.
L'analyse d'Aurélie Herbemont, Emmanuel Macron qui a décoré hier 4 maires actuels ou anciens, dont Robert Rue, le chef de l'État qui a condamné les violences et les silences complices qui ont perverti, dit-il, le mouvement des Gilets jaunes.
Avant même la réforme des retraites, c'est un autre problème que l'exécutif va devoir gérer, celui du déficit du système actuel.
Sur Europe 1, l'éclairage éco avec la Banque Tarnot pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Tarnot, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Bonjour Nicolas Barret.
Bonjour Marion.
Le gouvernement avait demandé un rapport fin septembre pour évaluer la situation. Eh bien, les conclusions sont claires. Hein. Il va manquer des milliards d'euros pour financer le système.
Et oui, d'ailleurs, c'est terrible parce que plus on affine les prévisions sur le financement des retraites, eh bien plus le trou des années à venir se creuse. Le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites apporte d'ailleurs un démenti aux syndicats qui prétendent qu'il n'y a pas de problème financier et que le système va s'équilibrer tout seul. En 2025, il manquera quand même entre 8 et 17 milliards d'euros, suivant les hypothèses. Et si rien n'est fait, le déficit va persister, voire se creuser par la suite. 8 milliards dans le meilleur des cas en 2030, mais jusqu'à 27 milliards dans le pire des scénarios. Bref, les besoins de financement vont rester très très importants.
Voilà qui est inquiétant. Quelle est la solution, Nicolas ?
Bah écoutez, si on écarte les solutions brutales, il y en a deux, c'est du genre désindexation des pensions ou hausse des cotisations, eh bien, il en reste une, c'est l'instauration d'un âge pivot, alors à 63 ans et demi, parce que c'est cet âge qui équilibre les comptes à l'horizon 2025. En dessous de cet âge pivot, on part à la retraite, mais avec une décote, et au-dessus, on bénéficie d'un bonus. Se mettre d'accord là-dessus est indispensable avant d'envisager de réformer le système, parce que le passage à un système de retraite à points, plus simple et censé être plus juste, ne peut se faire que si tout ça est équilibré, pas si le système prend l'eau de toutes parts.
L'éclairage de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans ce journal.
À rebours de l'ONU et d'une majorité de la communauté internationale, les États-Unis ont annoncé cette nuit ne plus considérer les colonies israéliennes en territoire palestinien comme illégales. À New York, le correspondant d'Europe 1, Xavier Yvon.
Donald Trump rêve de présenter au monde le plan de paix ultime, comme il dit, pour le Proche-Orient. Mais revirement après revirement, le président américain enterre à chaque fois un peu plus profondément les espoirs de paix. Depuis 3 ans, l'administration Trump a reconnu Jérusalem, capitale d'Israël, en déménageant l'ambassade américaine. Elle a validé l'annexion du plateau du Golan, stoppé toute aide aux Palestiniens et désormais donné son feu vert à la colonisation, jugée pourtant illégale par l'ONU. Autant de cadeaux de Donald Trump à son ami Benjamin Netanyahou. Pour le premier ministre israélien en lutte pour sa survie politique, cette annonce tombe à pic. Pour le président américain en pleine campagne de élection, c'est aussi un nouveau gage pour ces électeurs des églises évangéliques ultra favorables à Israël. Le plan de paix ultime, lui, attendra. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Troisième jour d'un face-à-face tendu à Hong Kong entre les forces de l'ordre et les protestataires retranchés dans un campus. La chef de l'exécutif les a appelés à la reddition, seule solution selon elle, pour une issue pacifique.
Et votre journal continue dans un instant avec l'enquête de la rédaction sur la prise en charge des détenus radicalisés. Europe 1 a pu accéder à l'intérieur d'une prison, justement d'un de ces centres. On va vous le faire découvrir. Restez à l'écoute sur Europe 1.
Europe 1, il est 7h10. La suite du journal, Mathieu Béliard, Marion Calais.
C'était le premier attentat djihadiste en prison, septembre 2016, à la maison d'arrêt d'Ony, dans le Val d'Oise, dans un quartier dédié aux détenus radicalisés. L'assaillant Bilal Taghi, qui avait attaqué 2 surveillants de prison, est aujourd'hui jugé devant les assises de Paris.
Son geste avait entraîné une refonte complète de la prise en charge des détenus radicalisés. Désormais, les personnes écrouées pour terrorisme sont évaluées pendant 4 mois. Ceux qui présentent le plus de risques sont placés en quartier d'isolement. Les autres, susceptibles d'évoluer se retrouvent dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation.
Bonjour Gwendoline Debono.
Bonjour.
C'est justement l'un de ces quartiers, Aix-en-Provence, que vous nous proposez de découvrir ce matin.
Oui, c'est un long couloir éloigné des autres bâtiments. Ici, chaque cellule est ultra sécurisée. Les meubles sont scellés au sol. Pour ouvrir les portes, un protocole précis est appliqué.
Ouais, c'est bon, ils sont. D'accord, on compte la fenêtre.
Nous ne verrons aucune des personnes incarcérées. Un surveillant fait une démonstration avec un de ses collègues dans le rôle du détenu.
Je vais vous présenter mes maîtres. Les maîtres, s'il vous plaît. Ouvrez la bouche. Passez la main dans les cheveux.
On va lui demander d'avancer d'un pas. Donc il va nous faire dos sur 2 mètres. À la sortie de la cellule, il y a une prise en charge des 2 agents, palpation de sécurité, plus un détecteur de métaux. Si on doit le remettre en cellule pour 5 minutes et le ressortir ensuite, ça sera le même protocole de sécurité.
Les détenus accueillis dans ce quartier ne croisent jamais ceux de la détention classique. Ce n'est ni la même cour de promenade, ni les mêmes parloirs. C'est une prison dans la prison pour ne laisser aux terroristes présumés aucune chance d'embrigader les autres.
Ces quartiers sont ultra sécurisés, mais ce n'est pas leur seule spécificité.
Absolument. Terminé, le temps où l'on ne faisait que rassembler les détenus radicalisés. Depuis 2016, l'idée, c'est de les désengager de l'idéologie violente. Ici, chaque détenu rencontre psychologue, islamologue, mais aussi spécialiste de géopolitique. Une pièce du long couloir a toute son importance, c'est la bibliothèque. Sur les premières étagères, un livre de cuisine, une biographie de Coluche et l'histoire du monde illustré. Il faut passer devant ces ouvrages pour ensuite arriver au Coran. Un choix qui ne doit rien au hasard, explique Naoufel Gayed de la mission de lutte contre la radicalisation violente.
L'idée n'est pas du tout d'orienter les personnes dans leurs croyances, mais plutôt que de les amener à s'ouvrir sur d'autres horizons et de s'autoriser à penser librement. Parfois, ils vont aller vers des ouvrages qu'ils n'auraient pas forcément découverts avant d'arriver au QPR.
Les détenus peuvent aussi commander des ouvrages et leurs lectures sont très observées, nous dit-on, pour évaluer leur niveau de radicalité.
Est-ce qu'il n'y a pas tout de même, Gwendoline, un risque de dissimulation ?
Alors ici, les détenus sont observés en permanence, hein, d'abord par les surveillants qui ont tous suivi une formation spécifique, par les psychologues, les éducateurs, des professionnels, hommes et femmes, qui tous les 6 mois se mettent autour d'une table pour discuter du cas de chaque détenu. Pour l'administration pénitentiaire, cela limite le risque de dissimulation.
Alors on a maintenant 3 ans de recul, Gwendoline, sur ces quartiers de prévention de la radicalisation. Est-ce qu'ils fonctionnent ?
Alors pour l'instant, 13 détenus sont sortis des QPR au bout d'un an et demi en moyenne. 8, donc la majorité, ont rejoint la détention classique. Les autres, hermétiques, ont été en quartier d'isolement. Ça semble fonctionner. Toutefois, ça ne résout pas le problème des longues peines. Garder quelqu'un en QPR pendant 20 ans n'aurait aucun sens, admet un membre de l'administration pénitentiaire.
Voilà l'enquête de Gwendoline Debono pour Europe 1 dans ce quartier de prévention de la radicalisation à Aix-en-Provence.
Après cette visite exceptionnelle, hein, on a pu vous faire entrer dans ces quartiers de prévention de la radicalisation. On a besoin de se détendre un petit peu. On va jouer à présent, pour terminer le journal, aux jeux vidéo, mais sans console. Google met aujourd'hui en service une nouvelle plateforme dématérialisée. On vous explique tout dans un instant.
Europe 1, il est 7h15. La suite du journal, Mathieu Béliard, Marion Calais.
Fini les consoles et les manettes qui s'entassent dans le salon. À partir d'aujourd'hui, oui Mathieu, ne me regardez pas comme ça, vous allez pouvoir jouer à Just Dance 2020 et danser avec vos enfants, vos petits-enfants dans le salon sans avoir investi dans le moindre matériel.
Google lance Stadia aujourd'hui, sa plateforme de jeux vidéo. Et pour les explications et le fonctionnement, c'est avec Clément Le Saffre pour Europe 1.
Si pour vous, jouer aux jeux vidéo rime avec console trop chère, fil qui s'en mêle et téléchargement interminable, oubliez tout ça, avec Stadia, c'est fini. Pour Google, le futur du jeu vidéo, c'est le dématérialiser. Tout ce qu'il vous faut pour jouer, c'est une manette et un écran. Alors ça peut être une télé, un ordinateur portable ou même un téléphone, que ce soit du neuf ou du vieux, performant ou pas, peu importe, ce n'est pas le matériel qui compte, mais la connexion Internet. Alors comment ça marche ? D'abord, il faut s'abonner à la plateforme Google Stadia, ça coûte 10€ par mois. Après, il faut quand même acheter les jeux qui vous intéressent au même prix que dans le commerce. Alors je peux vous dire que le résultat est bluffant. Une fois le compte créé en à peine une minute, on est déjà en train de jouer puisqu'il n'y a plus besoin de télécharger les jeux. Tout n'est pas parfait non plus, le catalogue de jeux par exemple est encore un peu limité, une 20aine de titres, certes de qualité, mais sortis pour la plupart il y a 1 ou 2 ans comme Tomb Raider, Football Manager et Assassin's Creed. Reste qu'avec Stadia, Google se présente comme un sérieux concurrent de la PlayStation et la Xbox.
Voilà, alors encore faut-il avoir une bonne connexion.
Bah oui,
Internet.
Je pensais à chez moi, là, je me dis, je me vois là, dans la surface du Barça. prêt à marquer, puis hop, ça a bugué. Voilà, non, c'est impossible. Et puis ça pose quelques questions écologiques aussi au niveau des serveurs, bien sûr. Bon, on va découvrir Google Stadia, peut-être. Il faut essayer, en tout cas, avant de juger. Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h, un nouveau journal à 7h30 tout à l'heure avec Hélène Zélani.